voix nue. Toute cette semaine, Nejma Bouakra rencontre Nicole El-Karoui. Ce soir, recherche et amplification.
Dans votre domaine, les mathématiques, la simplicité d'une démonstration en fait l'élégance. Et pendant plus de 20 ans, Nicole El-Karoui, vous travaillez de façon théorique, en pratiquant assidûment les probabilités. Votre visée, faire progresser la science et la recherche fondamentale. En 2006, vous recevez la Légion d'honneur pour l'ensemble de vos travaux. Aujourd'hui, nous nous attacherons à comprendre le cheminement intellectuel d'une mathématicienne de haut vol, qui trouvera quelques années plus tard à associer des problématiques théoriques et concrètes en appliquant les mathématiques à la finance. Bonsoir Nicole El-Karoui.
Bonsoir Nejma.
Qu'est-ce que le hasard ?
Je pense que j'ai fait des probabilités pour éviter d'avoir à répondre. Qu'est-ce que le hasard ? Évidemment, Einstein dit « le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Essayer de formaliser ça, c'était pas vraiment mon objectif au point de départ. Ce qui m'a plutôt surpris, c'est quand un camarade de l'école normale, en fait, m'a dit « Oh, il y a Kolmogorov, en 1933, qui a dit que le hasard, ça se mesure ». Et tout d'un coup, ça m'a paru comme étant la clé de... une clé, c'est pas la clé. Des questions un petit peu que j'avais indirectement autour de cette notion de hasard. En même temps, les mathématiques, pour moi, d'une certaine manière, c'était peut-être un peu trop rigide comme structure de pensée, etc. Du coup... avec ces probabilités-là, j'avais quand même bien l'impression que, on a beau dire le hasard, ça se mesure, il restait beaucoup de questions derrière, en particulier de l'importance de la mesure, que c'était un champ qui méritait d'être découvert. Et j'ai eu une chance extraordinaire, d'abord pour avoir suivi le cours du professeur Neveu en 1968, en DEA, enfin on dirait en Master 2 maintenant, qui avait contribué à faire beaucoup plus brillamment que moi, mais un petit peu dans la même lignée, épurer la théorie des probabilités d'une partie de ces scories où les gens étaient très centrés sur la vision jeu de hasard, on devait jouer au dé, Et avec Neveu, on ne jouait pas au dé. On réfléchissait à des phénomènes plus compliqués, mais aussi on apprenait les outils de modélisation pour travailler sur ces objets plus complexes. Et ça a été une révélation. Si je devais faire de la recherche, ce serait dans ce domaine-là, et c'est ce que j'ai fait très rapidement.
Oui, parce que vous bénéficiez d'une très bonne école mathématique française. Vos enseignants sont très bons.
Alors, l'école mathématique française est excellente. Les structures françaises de sélection par les classes préparatoires, puis les écoles normales ou l'école polytechnique marchent extrêmement bien. Par contre, moi, je fais des probas. Et ça, c'est très mal vu par l'école française. Donc, les grands maîtres à penser de l'école française... ont décrété que les probabilités, c'était des choses appliquées, que ça ne méritait pas le nom de mathématiques. Bon, c'est un mode de pensée qui m'est assez étranger quand même. Je ne sais pas pourquoi on peut juger définitivement des choses. Et c'était très, quand même une sorte d'anathème de faire des probas. Et après, j'avais été nommée à Orsay, et à Orsay, il y avait la liste des gens qui faisaient des probabilités, qui, ça voulait dire, dans le département de maths, et ça veut dire qu'ils ne faisaient pas des maths. Mais bon, ce n'était pas très important, parce que la chance que j'avais, c'était de me retrouver à une période exceptionnelle des probabilités en France, où des gens de tout premier plan, le professeur Neveu... qui a dirigé le laboratoire de probabilité, où on est aujourd'hui pendant des années. À Strasbourg, il y avait une équipe extraordinaire. Et là, il y avait des gens... les Américains prenaient le français pour venir faire des probabilités en France, donc vous imaginez quand même ce que ça représente. Et on a été associé à une période incroyable d'effervescence, de réflexion, d'initiation aussi à des mathématiques très compliquées. C'est des problèmes vraiment difficiles. Les outils manquaient pour parler des processus. Et tous ces gens-là ont contribué et nous, on a apporté une petite pierre avec. Quand je dis « nous », c'est parce que j'ai eu une expérience exceptionnelle qui a été de... c'est difficile de parler des sigles parce qu'ils ont beaucoup changé, mais de faire ma thèse d'État, c'est-à-dire celle qu'on faisait pour devenir professeur, avec camarades ou trois enseignants d'Orsay, où on a travaillé tout le temps ensemble, on a signé tous les papiers ensemble et on n'a jamais cherché à savoir qui avait contribué le plus à tel ou tel autre papier parce que, dans le fond, c'est là qu'on a appris la diversité culturelle de faire des maths. On était extrêmement complémentaires, un plus imaginatif. Moi, je ne lâchais pas tant que tout n'était pas super limpide. Le troisième était un peu entre les deux. Et ça a été je pense que depuis 40 ans maintenant, je suis toujours à la recherche de recréer ces trois années inoubliables.
Comment est-ce qu'on travaille justement à trois? Vous pouvez nous décrire vos échanges?
En général, on a un problème de maths cohérent avec les questions que se pose la communauté. C'est souvent des problèmes assez abstraits. Déjà, on essaye de décortiquer le problème, chacun sa façon, donc tous les points de vue enrichissent. Et puis, souvent, il y a des vraies difficultés techniques. Et là, on écrit au tableau, on parle ensemble. Le soir, on retravaille un peu pour voir. L'avantage d'être à trois, c'est quand on fait ça tout seul, en général, il y a toujours des périodes où on est bloqué et... ça n'avance pas, on tourne un petit peu en rond, tandis que quand on est plusieurs, on est aussi bloqué, mais les idées des uns et des autres peuvent amener quelqu'un à avoir la bonne idée au bon moment et débloquer le système. Très souvent, un mot suffit à ouvrir, à vous dire « Ah oui, mais c'était ça ». Et quand on est à trois, le mot, il vient plus facilement. Et surtout, ça fait un peu un jeu, quoi. On s'envoie la balle. Alors maintenant, c'est plus comme ça du tout. Il faut faire des papiers, donc tout le monde doit mettre son nom tout seul. On travaille beaucoup moins ensemble qu'avant. Moi, je suis arrivée à Paris 6 comme prof ici en 86, juste avant de faire de la finance. Bon, là, on était encore extrêmement... il n'y avait pas Internet. Les ordinateurs étaient encore tout petits. Et donc, on était très dépendants en termes d'information, de la richesse de la structure dans laquelle on était. Maintenant, je viens d'apprendre les maths financières et maintenant les questions de population, de longévité, etc., 100% sur Internet. C'est-à-dire que la capacité d'interagir avec d'autres, si on prend le temps de le faire, si on sait le faire, il y a tout un art, il faut de la culture, vraiment, pour savoir. C'est devenu beaucoup plus facile. Mais ça n'ôte jamais cet apport du fait qu'on se parle.
Nous sommes dans un lieu, cette bibliothèque-là, et vous tenez à cette bibliothèque, je crois.
Alors, je tiens à cette bibliothèque parce que, d'abord, je la connais depuis que j'ai commencé à faire de la recherche en proba, c'est-à-dire exactement en 1968. Et beaucoup des livres qui sont là, certains, je les ai fait acheter, d'autres me les ont fait lire, et je peux dire que j'en ai lu une grande partie, même si maintenant on ne lit plus de livres, puisqu'on trouve les informations sur Internet. Mais bon, je pense qu'un grand nombre d'entre nous, on reste des amoureux des livres en général, des livres de maths en particulier, même si c'est quand même plus dur à lire qu'un roman policier.
Je vous l'accorde. Nicole El-Khaoui, comment faisiez-vous justement pendant les années 70 pour vous tenir informée de l'évolution des recherches de vos confrères et consoeurs, des étapes que les uns avaient dans tel domaine, dans telle recherche scientifique qui pouvait vous intéresser, puisque rien n'était numérisé?
Rien n'était numérisé, tout passait par la poste. Donc il fallait s'envoyait des préprints, des tirés à part. Une des choses extrêmement importantes, c'était d'être dans les bonnes équipes, et en particulier la convivialité de l'équipe, l'esprit que faisait régner le directeur du laboratoire et des choses comme ça étaient des éléments extrêmement importants pour contribuer à faire circuler l'information. L'autre manière, c'était les congrès. Et de ce côté-là, pour moi, ça a toujours été difficile parce que, avec les enfants à la maison, c'était très compliqué de s'éloigner longtemps. Mais le fait que d'autres vous disent qu'ils avaient entendu des gens parler des choses comme ça rendait l'information accessible. Mais l'essentiel passait quand même par les documents qui arrivaient au labo, parce que le labo était un grand labo, parce qu'il y avait des gens très brillants qui transmettaient l'information.
Ces informations, ces recherches, c'est le nerf de la guerre, de savoir à quelle étape s'est arrêté tel scientifique pour pouvoir continuer d'ailleurs, juste derrière lui, ou prolonger sa réflexion et ses recherches.
Oui, oui, c'est la nature même de la recherche. L'autre aspect de ça, c'est que si vous n'avez pas l'information, vous pouvez travailler sur un sujet qu'un autre a traité et que vous ne saviez pas, que vous ne connaissiez pas ses travaux. À cette époque-là, la déontologie était très stricte. C'était dommage pour vous, mais si l'autre l'avait fait, il l'avait fait. Ce que vous pouviez apporter n'avait pas à prendre en compte.
Vous n'avez pas droit de citer, c'est ça ?
Oui, alors en fait, ce qui se passait, c'est que, comme toujours un petit peu en science, si on arrivait sur des problèmes qui se ressemblaient avec des motivations différentes, les retombées dans les problèmes originaux qu'on pouvait avoir et pouvaient être assez différentes. Souvent, tout n'était pas absolument perdu, mais il y avait des moments de découragement extrêmement majeurs.
Ça vous est arrivé ?
Ça m'est arrivé, mais l'autre chose aussi qu'on n'imagine pas et qui est très important pour les femmes, c'est qu'après ma thèse, donc assez vite j'ai été nommée professeure au Mans, mais avec des camarades, on a décidé de travailler sur un problème beaucoup plus difficile, dont on savait qu'il nous faudrait du temps pour le résoudre. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait rien. Et donc, travailler, ça veut dire vous écriviez sur du papier avec un crayon en général pour effacer les bêtises ou les choses que vous aviez écrites. Et à l'époque, j'avais les enfants étaient petits et pendant un an, on a travaillé tous les jours ou à peu près et on ne trouvait rien. C'est-à-dire, le soir, vous jetiez vos papiers à la poubelle et de temps en temps, vous disiez « j'arrive à justifier que les enfants sont à la crèche » ou etc. C'était pas du tout évident. Et de ce côté-là, si mon mari n'avait pas été, en tout cas, tout à fait d'accord pour que je travaille tout, j'ai eu des camarades pour qui c'était pas le cas. Et là, c'était des choses vraiment difficiles. Et un jour, une phrase, quelqu'un débloque le système. Et
tout repart. Et le désir aussi. Et de nouveau, la passion reprend.
Oui, enfin, de toute façon, il faut quand même voir que faire des mathématiques, c'est sécher pendant 90% du temps et 10% du temps, trouver des choses qui relancent la machine. Hein. C'est pas... C'est pas un long fleuve tranquille qu'on parcourt plein de succès, de choses comme ça. C'est plutôt l'inverse. Les mathématiques, c'est pas très équilibrant. Hein, parce que si vous ne résolvez pas votre problème, vous y pensez tout le temps.
Ouais. C'est obsédant.
Oui, donc il faut essayer d'éviter d'être trop dedans le soir en vous couchant. Parce que sinon, vous faites des maths toute la nuit. Enfin, je veux dire, non, c'est pas un modèle d'équilibre, les maths. Donc, moi, les enfants, au moins, ils avaient une réalité tangible qui me redescendait sur terre, mais en tout cas, c'est pas une profession facile.
Et pour revenir à ces échanges scientifiques, peut-être cette fois-ci à l'international, est-ce que vous découvrez, par exemple, d'autres très bonnes écoles de mathématiques et de très bons chercheurs à l'étranger ? Ou des Russes, des Américains ?
Nous, on est dans le domaine des probabilités. Les probabilités en temps continu, enfin, c'est donc des processus qui évoluent au cours du temps. Et en fait, il y a une école russe excellente. Sauf que l'école russe, en 70, les Russes, ils sortent pas d'URSS, sauf quelques-uns. Donc, ils publient en russe. Certaines écoles, il y avait une équipe très bonne en Lituanie, mais ils publiaient en lituanien. Donc lire du russe, on y arrivait encore. Après, une fois que vous lisez, le vocabulaire enfin, les mots français, anglais, etc., c'est presque les mêmes. Les mots mathématiques sont relativement simples. Et,
on formalise de la même manière ?
Alors, on formalise de la même manière. Oui, c'est toujours une question, d'ailleurs, qui m'a plus que surprise. Une fois, 10 ans après, j'étais amenée à travailler avec un professeur chinois, bon, qui, quand même, avait vécu la révolution culturelle et des choses comme ça. Donc, ce que je veux dire, culturellement, notre histoire était complètement différente. Et dès qu'on se met au tableau devant une équation de maths... On s'est connus depuis toujours. Ça, j'ai toujours pas compris comment la langue, la manière d'écrire et de penser ne structure pas différemment la manière de faire des mathématiques. Mais non, il semble que non.
Et les Russes, là, sont épatants.
Alors, les Russes sont excellents. Ils ont déjà une très grosse école russe. Donc, l'URSS pioche sur toutes les républiques. Ils ont quand même un système de promotion des jeunes très brillants pour les amener à Moscou dans les meilleures structures. Donc ça, c'est sûrement une des grandes forces des systèmes soviétiques ou chinois, ce capacité... Alors le reste, c'est pas gratuit, mais là, il y avait des vrais talents et ils avaient l'Académie des sciences, l'Université de Moscou, qui était à un niveau assez extraordinaire. Ce qu'ils avaient par rapport à l'école française, qui... ils avaient une jonction plus grande entre la théorie et la pratique. En France, on avait tendance à privilégier de loin la théorie. Et eux, ils font des maths très abstraites, enfin, les problèmes théoriques qu'on rencontre, mais ils regardent plus de problèmes un peu intermédiaires, pas toujours très appliqués. Donc, sur le plan théorique, je pense qu'en France, on a fait faire des percées. C'est plus spectaculaire, mais eux, ils avaient tout à fait le niveau pour suivre et contribuer. Et ils avaient aussi une vision plus appliquée, plus terre à terre, plus un continuum.
Ça vous plaît, ça ? Ça vous intéresse ?
Oui, alors en France, on aurait eu ça si l'école probabiliste avait intégré facilement l'école de statistique, où les statistiques peuvent poser des problèmes théoriques très compliqués, mais ont comme base quand même d'utiliser les données pour arriver à déduire un certain nombre de choses.
Avant peut-être de parler de finances, parce que les probabilités, ça sert à quoi ?
Les maths, ça ne sert à rien.
Non, mais les probabilités, vous allez nous dire, vous, à quoi ça sert, les probabilités.
À penser le hasard. Une grande partie des mathématiques, de manière générale, ont un support qui est fondamentalement autour de la physique, des phénomènes physiques. Donc, les mathématiques ont souvent trouvé leur motivation ou une partie de leur réflexion dans l'observation de phénomènes physiques et l'essai de compréhension. Donc les probabilités, celles qu'on fait sur les processus aléatoires, sont un peu différentes de ce que les gens imaginent, parce que les phénomènes physiques, sont les particules qui se choquent à la surface d'un liquide, c'est les atomes qui s'entrechoquent, et on essaie de savoir où ils vont aller, comment ils perturbent les systèmes. Donc c'est des choses assez compliquées qui se déroulent au cours du temps. Bon, et sur lesquels les physiciens, Einstein en particulier, mais une école infinie, ont beaucoup d'intérêt et aussi beaucoup de questions. Donc les probabilistes ont essayé de dégager des outils théoriques pour essayer d'expliquer ça, et les physiciens ont aussi un autre regard, et tout ça travaille, échange. Il y a les phases, c'est plutôt les maths qui se développent pour résoudre, il y a d'autres phases, c'est plutôt les physiciens... Mais il y a toujours cette sorte de référence à des phénomènes physiques qui, quelque part, dans la communauté probabiliste, met un élément de validation de l'intérêt de certains problèmes, etc. Et donc, souvent, les physiciens, ils ont la réponse, mais ils n'ont pas la preuve. D'accord ? Et donc, la première médaille Field, qui a été donnée en probabilité, Vendelin Werner est quelqu'un qui a démontré des résultats dont les physiciens avaient eu l'intuition, avaient donné des idées, mais on ne pouvait pas dire qu'ils l'avaient démontré. Donc les mathématiciens démontrent. Il ne suffit pas d'avoir l'intuition, il faut reproduire la preuve. D'abord moi, si on ne m'a pas donné la preuve, je ne crois pas ce qu'on me raconte. Bon, mais moi je suis un peu spéciale. Mais en fait... dans les mondes appliqués où il y a beaucoup d'affirmations, beaucoup de croyances en fait, si vous avez des arguments logiques, alors, vous n'êtes plus dans la croyance, vous n'êtes pas obligé de croire que le marché a toujours raison ou que cette loi physique est vraie, etc. Vous avez un argument pour commencer à réfléchir. Ça, c'est un atout pour moi des mathématiques.
Et... Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, Nicole El-Khaoui, concret ? Dans notre monde actuel, quelle est l'utilité des mathématiques et des probabilités ? Comment est-ce qu'on peut utiliser à bon escient les probabilités ?
Il y a toutes sortes de phénomènes incertains qu'on observe tous les jours pour regarder, les résultats des votes, comment est-ce que les gens prédisent. Je me suis intéressée récemment à des questions de population. Bon, ça, c'est les grands problèmes qu'on regarde qui sont dans notre champ, mais il y a... énormément de questions. Enfin, mon sentiment en ce moment, c'est que on a passé une sorte de virage de la vision d'un monde qu'on voyait comme, alors on dit déterministe chez nous, donc qu'on peut expliquer avec des équations rationnelles, on va dire, et sans mettre, sans incertitude autour, à un monde où de toute façon, on est en train de vivre des situations qui n'ont jamais existé auparavant. Donc, quelquefois, pour tester la validité des choses, vous utilisez l'histoire, l'historique, les données passées. C'est, voilà. Et quand vous vivez des choses qui ne se sont jamais passées, les données passées, elles ne sont pas du tout évidentes. Le monde est très incertain. Il faut qu'on admette de plus en plus qu'on n'a pas de bonnes réponses, mais que... une réponse dont on sait qu'elle n'est que très partiellement vraie, ça c'est mieux que pas de réponse du tout ou pas d'essai de comprendre. Parce que pour arriver à une réponse, il a fallu déjà réfléchir, classifier, etc. Sauf qu'on est dans une période où ça se remet en cause en permanence. Mais il faut apprendre à voir le monde différemment, il faut se créer des alertes. Il faut lire différemment, il ne faut surtout pas s'installer dans une certitude.
Est-ce que tout est modélisable ? Est-ce qu'il y a donc des limites aux probabilités ?
Il y a des limites infinies aux probabilités. Dire que le hasard se mesure, c'est un postulat qui a permis de développer un certain nombre de choses pour essayer de cerner un monde d'une grande complexité sur lequel on n'avait pas de clé. Donc de dire ça, juste une phrase comme ça, ça a ouvert 50 ans de recherche, de représentation, etc. Est-ce que tout ce qui est sorti est vrai ou pas ? Donc les maths, elles vont vous dire, dans le contexte des hypothèses que j'ai posées, le résultat que j'ai énoncé est vrai. Est-ce qu'il est vrai par rapport à ce qu'on cherchait à capter ? Dans le monde social, on aura de plus en plus de mal à le croire. Et puis... au fur et à mesure que vous apprenez dans la complexité, vous voyez quelque chose, mettons, qui crée beaucoup de risques. Donc celui-là, vous voyez bien qu'il faut faire quelque chose contre. Le risque étant très étroitement lié à la représentation de l'incertain dans le futur. Mais une fois que vous avez compris ça, vous allez traiter cet effet-là. Mais après, c'est sans fin. Parce que celui-là faisait un écran, qui paraissait finalement pas si compliqué que ça à gérer. Et puis derrière, il vous ouvre une complexité infiniment plus grande, mais pas moins risquée. Alors, face à ça, il y a la question des données, dont on ne parle plus que du big data, enfin, socialement. Évidemment, avec les outils d'Internet et de collecte de données, de toutes ces informations qu'on récupère par satellite, qu'on récupère de toutes les manières, donnent le moyen de traiter un très très grand nombre de chiffres, d'informations. Traiter, ça veut dire que ces nombres arrivent, ou ces points arrivent, ou ces images vous arrivent, et puis il faut représenter une réalité et l'analyser. Mais on fait ça à des échelles qui ont son rapport avec ce qu'était capable de faire un œil humain, par exemple, ou des choses comme ça. Et donc là, il y a un potentiel d'information, d'éducation, d'outils qu'on peut utiliser, qui est déjà très bien perçu. Mais il y a aussi une réflexion sur, dans certains cas, qu'est-ce que ça veut dire de prendre les données très très nombreuses, brutes, de les traiter et d'attendre des données qu'elles aient l'air de vous donner une réponse à une question que vous ne vous êtes pas posée. Et donc ça, c'est très questionnant en ce moment. Et l'autre question qu'on a, et j'ai un fils qui fait des statistiques, qui dit qu'aux États-Unis, c'est posé de manière plus encore ardue, ou plus présente, c'est que grâce à ces données, on peut analyser, surtout aux ordinateurs qui vont derrière, aux algorithmes qu'on utilise, on peut regarder énormément de choses, et les gens se demandent à quoi ça sert d'avoir un modèle et de faire des preuves. Donc la question de la preuve est périodiquement remise en cause. Et,
vous nous dites qu'avec cette masse de données, finalement, on s'autorise actuellement à finalement produire moins d'hypothèses. Dans un monde donc où les données sont traitées déjà en partie par des algorithmes, la difficulté, vous nous dites, c'est de trouver, d'arriver à avoir un registre de preuves. C'est ça, un bon registre de preuves.
Parce on questionne beaucoup les données, mais on pense que de prendre les données, de les traiter informatiquement, très schématiquement, c'est pas aussi bête que ça. Hein. Mais ça, à la limite, va apporter des réponses auxquelles on s'attendait pas. Dans certains cas, c'est vrai. Mais la question, c'est comment vous validez ces données. Comment vous validez cette réponse? Et en fait, si vous ne pouvez pas reproduire l'expérience, vous n'allez pas pouvoir valider. C'est une question qui est posée sur la table, on va dire. Et en même temps, on ne sait pas vraiment... on a beaucoup, beaucoup d'exemples où c'est n'importe quoi ce qui est sorti des données. Donc on ne sait pas vraiment... votre bon sens, votre culture peut vous permettre de dire ça c'est raisonnable, ça ça l'est pas. Mais ça, ça suffit pas à prendre des décisions stratégiques. Mais là, on est vraiment un virage vraiment passionnant, mais très questionnant. Et je pense que c'est pas tout seul les scientifiques de l'intérieur qui vont y arriver. Enfin, il y a de quoi penser Milan encore.
Merci.
Donc on ne s'ennuie pas.
Merci Nicole Alcaoui.
Vous trouverez demain la suite de cette rencontre de Nejma Bouakra avec Nicole El-Karoui. À voix nue, réalisation Vincent Abouchard, prise de son Olivia Branger, attachée d'émission Claire Poinsignon, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.